Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Burundi, l'Église catholique dénonce les nombreuses irrégularités dans les élections générales du 20 mai. En RDC, décès du président du tribunal en charge du procès de Vital Kamerhe, poursuivi pour détournement de fonds. Une nouvelle ère spatiale doit s'ouvrir ce mercredi avec le lancement par une société privée d'un nouveau vaisseau dans la conquête de l'espace. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burundi, l'Église catholique a dénoncé hier soir beaucoup d'irrégularités ayant affecté la transparence et l'équité des élections générales du 20 mai qui ont vu la victoire du candidat du pouvoir. Les résultats sont également contestés par l'opposition. Écoutez la réaction du président de la Conférence des évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Joachim Taonderéye.
Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires à signer d'avance les procès-verbaux du dépouillement du contenu des urnes, le bourrage de certaines urnes, le vote à la place des défunts et des réfugiés, les procurations multiples donc invalides, le fait que dans certains bureaux de vote, il y ait eu des électeurs qui ont voté plus d'une fois, l'exclusion des mandataires et des observateurs des lieux de dépouillement du scrutin, les intimidations et contraintes exercées sur des électeurs par certains administratifs qui les accompagnaient jusque dans les isoloirs, l'intrusion des personnes non autorisées dans les lieux de comptage des voix, le secret du scrutin qui n'était pas garanti partout, la confiscation des accréditations et des téléphones de certains observateurs. Face à toutes ces irrégularités et bien d'autres, nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice au résultat à proclamer. Quoi qu'il en soit, autant nous condamnons toutes les injustices, autant nous refusons tout recours à la voie de la violence.
En République démocratique du Congo, le magistrat qui présidait le tribunal en charge du procès de Vital Kamerhe est décédé subitement la nuit dernière à Kinshasa. Selon le colonel Miguel Bagaya, responsable de la police, le magistrat a succombé des suites d'une crise cardiaque. Âgé d'une cinquantaine d'années, le magistrat avait présidé lundi la deuxième audience du procès de Monsieur Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi. Avec deux autres co-accusés, il est poursuivi pour le détournement présumé de quelque 50 millions de dollars de fonds publics. Toujours en RDC, au moins 38 civils ont été massacrés au cours d'une série de tueries depuis vendredi dernier par le groupe armé des forces démocratiques alliées dans l'est du pays, selon l'ONU. Le bilan serait beaucoup plus lourd, selon l'ONG CEPADO, qui affirme que 40 civils ont été tués en territoire d'Irumu lundi et mardi. Au Burkina Faso, les 12 personnes retrouvées mortes dans une gendarmerie n'ont pas été tuées par balle, a affirmé aujourd'hui Rassmane Bikienga, le procureur général de la cour d'appel de Fadan Gourma. Seule une autopsie pouvait révéler les causes exactes des décès, mais malheureusement, elle n'a pas pu être faite, a ajouté le procureur Judicael Kadeba. Le président Roch Marc Christian Kabore a jugé samedi cette situation inacceptable et a promis des décisions sans état d'âme à l'issue des enquêtes. L'affaire va être transmise au procureur militaire pour des investigations plus approfondies s'il y a lieu, a précisé le procureur général Bikienga. Au Zimbabwe, une députée et deux militantes de l'opposition qui accusent la police de les avoir enlevées et torturées vont être poursuivies pour participation à une manifestation interdite en période de confinement. Les trois opposantes ont été retrouvées le 15 mai, grièvement blessées en bordure d'une route, deux jours après leur disparition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Pandémie de coronavirus, le monde a franchi mercredi la barre des 350 000 morts. L'Asie semble en bonne voie vers une sortie de crise. L'Europe accélère son déconfinement. L'Amérique du Sud s'enlise. Partout, le coût économique et social pèse très lourd. Eric Manirakiza.
L'Union européenne va dévoiler un important plan de relance de 750 milliards d'euros pour tenter de faire repartir les économies des 27 pays membres. En Espagne, la pauvreté explose plus vite que lors de la crise financière de 2008. La France a décidé de bannir la très controversée hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19 après des semaines de débats sur l'efficacité de ce médicament et la publication d'une étude pointant ses dangers. L'Italie pousse à une reprise concertée des déplacements en Europe le 15 juin, qui pourrait devenir le D-Day du tourisme. Pour le troisième jour d'affilée, les États-Unis ont déploré moins de 700 morts quotidiens selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Le nombre de nouvelles contaminations en Amérique latine a dépassé celui de l'Europe et des États-Unis. La propagation du virus s'accélère notamment au Brésil, au Pérou et au Chili. Au Brésil, les experts s'attendent à une chute de 6 à 10% du produit intérieur brut cette année, avec un taux de chômage pouvant atteindre plus de 18%.
En Syrie, au moins 6 djihadistes ont été tués dans l'explosion d'un dépôt de munitions dans la province d'Idleb, a indiqué une ONG. L'explosion a coïncidé avec le survol d'avions militaires russes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combats sporadiques secouent régulièrement la province d'Idleb et les territoires adjacents, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis début mars. Le président Donald Trump a menacé mercredi de réglementer ou de fermer des plateformes de réseaux sociaux qui, selon lui, censurent totalement les voix conservatrices. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
Cette menace intervient après que Twitter a signalé hier pour la première fois deux messages du président américain comme trompeurs et véhiculant des informations non vérifiées en ajoutant la mention « vérifier les faits ». Il s'agissait des tweets de M. Trump affirmant que le vote par correspondance était forcément frauduleux. Selon un porte-parole de la plateforme, les tweets de M. Trump contiennent des informations potentiellement trompeuses sur le processus de vote et ont été signalés pour fournir du contexte additionnel sur le vote par correspondance. Donald Trump, dont le compte a plus de 80 millions d'abonnés, avait réagi en affirmant que Twitter étouffe la liberté d'expression. Revenons à l'attaque sur ce sujet. Il a écrit ce matin: nous ne pouvons pas laisser le vote par correspondance s'enraciner dans notre pays. Cela représenterait un blanc-seing pour la fraude, la contrefaçon et le vol des votes. Celui qui fraudrait le mieux pourrait gagner. De même pour les réseaux sociaux. Reprenez-vous maintenant. Donald Trump a aussi accusé le réseau social d'avoir interféré dans la campagne présidentielle de 2016.
En Afghanistan, la journée a été assez calme au lendemain du terme du cessez-le-feu de 3 jours décrété par les talibans. Le président Trump a de nouveau appelé aujourd'hui au retrait des troupes américaines du pays. Selon un haut responsable militaire interrogé par l'AFP, le retrait militaire américain d'Afghanistan est très en avance sur le calendrier prévu. Les États-Unis s'étaient engagés à ramener leurs effectifs de 12 000 à 8 600 hommes à la mi-juillet, mais les effectifs américains ne sont déjà plus que de 7 500 soldats. Ici, aux États-Unis, une fusée décolle ce mercredi en direction de l'espace. Une opération pilotée par la société SpaceX qui a conçu la capsule à bord duquel se trouveront 2 astronautes de la NASA. Le président Donald Trump assistera à cet événement important près de 9 ans après la fin du programme spatial de la NASA. Plus de détails avec Mohamedou Oumfa.
Si les conditions météorologiques le permettent, ce mercredi à 20h33 GMT, la fusée qui porte le nom de Falcon 9 décollera du Centre spatial Kennedy en Floride. La fusée doit propulser dans l'espace une capsule, une sorte de vaisseau spatial dénommé Crew Dragon, avec à son bord 2 astronautes, Bob Behnken et Dirk Hurley, choisis par la NASA. Leur mission, se rendre dans la Station spatiale internationale à 400 km au-dessus de la Terre, où ils resteront entre 1 et 4 mois, le temps de collecter des données sur l'espace nécessaires à la recherche scientifique. Pour les États-Unis, c'est un grand jour. Le pays retrouve son autonomie vis-à-vis des Russes, puisque depuis 9 ans, les Américains utilisent les lanceurs Soyouz russes pour se rendre dans la Station spatiale internationale. C'est aussi une mission test pour les USA qui entendent retourner sur la Lune en 2024. Le véhicule spatial qui sera lancé a été fabriqué par SpaceX, une société fondée en 2002 par l'homme d'affaires Elon Musk, d'origine sud-africaine, maintenant naturalisé américain. La construction de ce véhicule a été financée à hauteur de 3 milliards de dollars par la NASA. Le véhicule sera réutilisable pour 6 futurs allers-retours spatiaux.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Zimbabwe augmentera la proportion de dollars que les mineurs d'or peuvent garder de leur vente, a déclaré la Banque centrale, qui a le monopole de l'achat et du raffinage de toute la production du pays. Les petits mineurs garderont tous leurs paiements en dollars, tandis que les plus gros producteurs conserveront 70% de leur argent en monnaie américaine. Jusqu'à présent, les mineurs d'or ne recevaient que 55% de leur vente en dollars et le solde en monnaie locale à taux de change fixe, ce qui, selon eux, nuisait à la production. En Afrique du Sud, la pandémie de coronavirus a accru la misère de quelque 4 millions d'étrangers, dont la plupart sont migrants ou des illégaux. Avant le Covid-19, ces personnes étaient employées dans des boutiques ou vendaient au coin de la rue. Mais ils n'en ont plus le droit, explique Alfred Djonga, porte-parole de familles réfugiées à Johannesburg. Terminons par le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina, qui s'est déclaré ce mercredi innocent d'accusations de prévarication le visant. Malgré des tentatives sans précédent pour ternir ma réputation, je maintiens que je suis innocent. Je vais donc continuer à travailler avec tous les actionnaires de la banque, déclare M. Adesina, dirigeant de la BAD et seul candidat à sa réélection pour un second mandat en août. Les États-Unis, un des principaux actionnaires de la BAD, avait demandé une enquête extérieure indépendante sur ces allégations de prévarication.
Non, la page sport, présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. Prince Bambo, un membre de la commission médicale de la CAF, a révélé avoir conseillé à cette instance l'annulation de toutes les compétitions organisées sous l'égide de la CAF, outre les compétitions interclubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Nous avons conseillé au comité exécutif d'annuler tous les tournois, y compris le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 au Cameroun, qui devait se dérouler en avril dernier, a-t-il indiqué à la radio ghanéenne Joyce FM. Ce responsable médical a soutenu vouloir préserver les joueurs des risques d'infection par le coronavirus. Au Nigeria, la prolongation du contrat du sélectionneur Gernot Rohr est effective. L'annonce a été faite par Amadou Pinnick, président de la Fédération nigériane de football. Je suis heureux d'annoncer que la Fédération nigériane de football et l'entraîneur Gernot Rohr ont conclu toutes les discussions contractuelles. Il restera entraîneur des Super Eagles, a écrit Pinnick sur Twitter. Les objectifs autour de cette nouvelle entente sont clairs. Gernot Rohr devra qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2022 et remporter la CAN 2021. En Angleterre, la Premier League a fait un grand pas vers un redémarrage du championnat. Elle a voté à l'unanimité en faveur d'une reprise des entraînements avec contact. Les clubs pourraient désormais s'entraîner en groupe et avoir recours au tacle, tout en continuant à limiter toute proximité qui ne serait pas nécessaire, explique la Premier League qui avait autorisé la semaine dernière les entraînements sans contact et par petits groupes de 5. La Ligue va maintenant entrer dans la phase concrète de planification des 92 matchs restant à disputer pour terminer la saison. Les négociations débutent demain avec les diffuseurs. Plusieurs voix, comme celle de l'entraîneur de Newcastle, Steve Bruce, ou du syndicat des joueurs, réclament cependant au moins un mois d'entraînement complet, ce qui repousserait au week-end du 26 juin le retour du football dans le pays qu'il a créé. En Grèce, le gouvernement a donné son feu vert à la reprise de la Super League de football. Les matchs pourront recommencer le week-end du 6 au 7 juin à huis clos, une fois le tirage au sort des play-offs effectué par téléconférence. Avant l'interruption du championnat, l'Olympiakos était en tête devant le PAOK Salonique et l'AEK Athènes. Les play-offs visant à déterminer le gagnant du championnat et les places européennes devraient être terminées d'ici le 19 juillet.
Merci Yakuba.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. L'assouplissement des mesures combinées aux diverses polémiques sur la fiabilité des tests de l'Institut Pasteur pousse de plus en plus de Sénégalais à négliger les mesures de prévention. Aussi, la communication gouvernementale n'aide pas et beaucoup de Sénégalais ne sont plus convaincus par les autorités. De notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagueye.
Des familles qui refutent des tests post-mortem, des médecins qui auraient été testés positifs puis négatifs suite à la contestation des résultats, ces polémiques accentuent les doutes déjà présents chez une partie de la population qui ne croyait que moyennement à l'existence de la COVID-19. Et malgré les éclairages de l'Institut Pasteur, certains ne sont toujours pas convaincus. C'est le cas de Farah Ndiaye, diplômé de l'Université de Dakar.
Ils nous annoncent des décès et parmi ces décès, leurs familles nous disent qu'ils ne sont pas morts à cause du corona. Maintenant, les gens, quand ils entendent ça, ils disent que est-ce qu'il y a vraiment cette maladie dans ce pays? Est-ce que ce n'est pas un lobby? Est-ce que ce n'est pas un deal entre le gouvernement et les étrangers? Parce que Macky Sall, il l'a dit dans son discours, les Européens doivent annuler leurs dettes. Est-ce qu'ils ne se basent pas sur ce virus pour essayer d'annuler leurs dettes?
Pour Boubacar Kouyaté, l'existence du virus ne fait pas de doute car c'est une pandémie qui secoue le monde. Cependant, le jeune homme explique que les gens ne sont plus prêts à changer leur mode de vie car il y a une certaine lassitude autour des gestes barrières.
Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas arrêter aussi. Ça fait partie de nos valeurs, les rassemblements, la salutation. Ces derniers, même, j'ai constaté qu'ici, les gens ne se saluent même plus. Mais les rassemblements, on ne peut pas les arrêter. Il y en a aussi des Sénégalais qui croient en cette maladie et qui respectent aussi les mesures de barrière. Mais d'autres, par contre, les jeunes comme nous, en ce moment, par exemple, pour moi, j'en ai, je ne veux pas dire marre, mais voilà, j'en peux plus, quoi, de porter les masques, de rester à la maison. C'est ça, en fait. Mais on sait que la maladie, elle existe et que ça tue. Mais en ce voilà, on en a marre, quoi.
L'État a failli dans sa gestion de la crise en procédant à l'assouplissement des mesures. C'est l'avis du sociologue Momar Fall qui estime que la réaction de certains Sénégalais est assez logique.
En vérité, l'État ne devait pas d'un coup venir vers cet assouplissement. Cet assouplissement a été un reflet ou bien un signal qui pouvait s'analyser comme quoi que la maladie a commencé à disparaître et que l'État ne voulait pas tout dire. C'est ce qui se passe dans la tête des Sénégalais. Donc, dans la tête du Sénégalais lambda, il dit que donc il n'y a plus de problème. Et c'est ce qui est normal, c'est l'analyse qui s'y est. Mais en vérité, cette maladie peut être là, moi j'y crois. Mais pour le commun des Sénégalais, il va se dire dans sa tête que la maladie est en train de partir. Moi, je pense que c'est une faute de l'État, c'est une mauvaise politique de communication.
Le sociologue estime également que l'État doit davantage marquer la présence d'autres instituts afin de rassurer les Sénégalais sur la véracité des tests effectués. Il est aussi attendu un réajustement de la communication des autorités sanitaires et gouvernementales pour que les populations soient plus impliquées et conscientes du danger. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum, environ 6 mois après la découverte des premiers cas du nouveau coronavirus, la majorité des pays qui avaient imposé des mesures strictes pour contenir la maladie ont amorcé un retour à la normale. Alors que Madagascar propose un traitement à base d'Artemisia, la course vers un vaccin est déjà amorcée dans plusieurs pays occidentaux. Nous faisons le point sur les mesures prises jusque-là pour lutter contre la pandémie et sur les traitements proposés ou en vue avec nos invités jeudi 28 mai 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Pour limiter la propagation de la pandémie, la RDC et le Rwanda ont fermé leurs frontières communes au point d'entrée de Goma et Gisenyi. Cette fermeture affecte négativement la vie quotidienne des populations à Goma. Les plus touchées sont ces femmes qui font le commerce transfrontalier au niveau de cette barrière. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, est allé visiter l'une d'elles.
Par jour, c'est entre 40 000 et 50 000 personnes qui traversent cette frontière entre Goma et Gisenyi. Depuis sa fermeture, pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus entre la RDC et le Rwanda, les commerces transfrontaliers effectués par les revendeurs à la criée a été suspendu entre ces deux villes. Une galère surtout pour ces milliers de femmes et les personnes à mobilité réduite pour qui la frontière était la seule source des revenus. Foura Marie-Claire, la quarantaine, exerce ici à la petite barrière depuis maintenant 15 ans Elle a 5 enfants, handicapée depuis plus de 30 ans. C'est avec son tricycle qu'elle transporte des petits colis de produits manufacturés du Rwanda vers la RDC. Foura Marie-Claire.
Depuis l'annonce du coronavirus et la fermeture de la frontière, nous restons à la maison et c'est devenu compliqué. Nous vivions comme des journaliers au tout du jour. Nous traversions au Rwanda pour y acheter des petites marchandises pour lesquelles je bénéficiais des 5 000 francs congolais par jour. Et je pouvais économiser un peu, mais tout est fini.
Depuis le 26 mars dernier, la fermeture de la frontière lui a fait perdre ses faibles revenus qu'elle tirait dans les transports des marchandises entre Goma et Gisenyi. Elle s'est vue aussi bloquée dans ses petites activités commerciales et des produits vivriers tels que les pommes de terre, le riz, tomates qu'elle achetait à Gisenyi au Rwanda.
Je suis handicapée et mère de 5 enfants ici à Goma. J'exerce à la frontière comme transporteur de marchandises, mais aussi j'achetais d'autres marchandises pour venir revendre ici chez moi. La vie a totalement changé pour nous parce qu'on n'a plus ce qu'on avait avant.
Pour elle, comme plus de 7000 autres membres de l'association des personnes vivant avec handicap moteur, exerçant les commerces transfrontaliers, la vie est devenue difficile. Son compagnon, lui, va jusqu'à proposer une médiation entre les deux gouvernements pour la réouverture de la frontière aux petits commerçants comme lui. Moutembere Zipol, la quarantaine, père de 3 enfants, transporté à la frontière Goma-Gisenyi.
Je pense que notre gouvernement devrait collaborer avec le gouvernement du Rwanda pour voir si les mesures peuvent être allégées pour nous faciliter, nous les handicapés. Si ce n'est pas le cas, nous allons mourir tous à la maison. Mes enfants à la maison n'ont rien à manger.
Les commerces transfrontaliers entre Goma et la ville rwandaise de Gisenyi est parmi les voies de ravitaillement de la ville de Goma en vivres et autres produits. Certains transporteurs et petits commerçants réalisent entre 5 voire 10 tours par jour, certains pour des besoins commerciaux dans le cadre de la libre circulation des marchandises, mais aussi une autre catégorie pour des réseaux familiales, logés au Rwanda mais qui travaillent la journée côté congolais. Charlie Kasereka pour VOA Afrique Goma.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3 24h sur 24.
4 officiers de la ville de Minneapolis dans l'état du Minnesota impliqués dans l'arrestation d'un homme noir décédé ont été licenciés hier, mardi, quelques heures après qu'une vidéo d'un passant a été postée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, un officier blanc enfonce son genou dans le cou de la personne arrêtée. Ce nouvel incident remet à jour la question des violences policières vis-à-vis des Noirs américains. Arzuma Compaoré s'est entretenu avec l'analyste politique René Leck, basé à Washington.
George Floyd lui-même, cette victime dont nous parlons, se met à dire qu'il ne peut pas respirer. Et ça rappelle bien entendu en 2014, Eric Garner qui 11 fois lui également a dit « je n'arrive pas à respirer ». Et bien entendu, malheureusement, le sort des deux a été le même. George Floyd aujourd'hui, Garner il y a 6 ans, tous les deux sont morts alors qu'absolument rien ne le justifie. Il n'y avait aucun acte de violence. Le racisme dans ce pays est extrêmement profond. Ça passe par l'éducation, la santé. On est en pleine crise du Covid. Comment expliquez-vous que plus de 40% des victimes soient justement des Noirs et des Latinos? Donc, le racisme dans ce pays est structurel, il est systémique. Et je crois qu'il faut qu'on prenne cela à bras le corps et il faut absolument que les choses changent. Ça ne peut pas continuer comme cela. Il y a des institutions qui devraient pouvoir garantir aux Noirs, aux Africains, aux êtres humains un minimum de protection, ne serait-ce que la protection de sécurité, la protection physique.
Aujourd'hui, avec justement le phénomène des smartphones un peu partout et tout le monde sort le téléphone à tout moment, on a maintenant mis le doigt sur la plaie. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une des façons que tout ça va changer, peut-être en intensifiant justement ce vigilante?
Oui, absolument. Et c'est là où vraiment la technologie nous sert énormément. Et c'est pour ça que je suis confiant, parce que bon, le monde, les choses progressent. Hein. La situation du racisme aujourd'hui, elle est moins violente et moins criarde, comme je le disais, que par le passé. Les choses vont dans la bonne direction, mais c'est beaucoup trop lent. Et c'est sûr que la technologie, de ce point de vue-là, aide. Imaginez la situation de George Floyd. S'il n'y avait pas eu les différentes vidéos, celle des passants, centre d'abord, ensuite celle des magasins ou du magasin qui était à côté, qui a pu la caméra de surveillance, qui a pu filmer la scène qui précède le moment où il a le genou sur le cou. Si on n'avait pas eu ces caméras là, eh bien, on s'en serait tenu à la déclaration, à la fausse déclaration, au mensonge et à la manipulation du département de la police. Et puis, bon, là, on serait passé, ça serait passé en perte et profit. On n'en aurait plus parlé. Donc, c'est sûr que les technologies, les nouvelles technologies aident beaucoup dans la dénonciation de ces actes racistes absolument ignobles.
René Lec, analyste politique basé à Washington. Lorsque le programme spatial de la NASA a pris fin en 2011, peu de gens pensaient qu'il faudrait presque 9 ans aux astronautes américains pour se remettre en orbite à partir du centre Kennedy en Floride. Une nouvelle ère spatiale s'ouvre ce mercredi avec le lancement par la société SpaceX de 2 astronautes de la NASA dans l'espace. Les explications de Kane Farabourg, correspondant de la VOA, avec le récit de Gabi Dorsil.
Même en utilisant les outils du planétarium Adler de Chicago, le directeur de l'astronomie, Geza Giyok, admet qu'il y a une limite à ce qu'il peut voir et faire pour comprendre le cosmos.
Nous avons un télescope de 24 pouces à l'arrière du planétarium Adler. Ce n'est pas un endroit idéal pour observer à cause de toute la pollution lumineuse de Chicago.
C'est pourquoi il dépend des expériences et des équipements déployés dans la Station spatiale internationale pour l'aider à observer non seulement l'univers de façon nouvelle et différente, mais aussi la planète Terre vue d'en haut. C'est une partie importante de son travail qui était limitée depuis la fin de l'ère des navettes spatiales, laissant les États-Unis dépendants des Russes. Depuis 2011, les Soyouz étaient les seuls taxis spatiaux disponibles. Guillaume est donc très enthousiasmé de voir les astronautes décoller.
Je vais les regarder en direct et profiter du spectacle.
Lorsque les deux astronautes vont décoller, atteindre l'orbite, puis se retrouver à la Station spatiale internationale, ils le feront dans un système partiellement financé, mais non produit, par la NASA. Écoutons James Bridenstine, administrateur de la NASA.
La NASA ne va pas acheter, posséder ou exploiter le matériel. En fait, nous allons être un client. Nous allons acheter un service.
Le service et le matériel, une fusée Falcon 9 et un vaisseau Crew Dragon, sont fournis par SpaceX, la première de plusieurs sociétés privées dans la course spatiale. Si le mauvais temps se dissipe à 16h33, donc 20h33 GMT, sur le pad de lancement numéro 39A du centre spatial Kennedy, d'où avaient décollé, rappelons-le, Neil Armstrong et ses coéquipiers d'Apollo, une fusée SpaceX, avec à son sommet la nouvelle capsule Crew Dragon, décollera en direction de la Station spatiale internationale. Space Exploration Technologies Corporation, fondée en 2002 par un entrepreneur obsédé par Mars, Elon Musk, a gagné pas à pas la confiance de la plus grande agence spatiale de la planète. La mission a obtenu le feu vert pour aller de l'avant alors que le monde fait face à la propagation du nouveau coronavirus. Bob Behnken et Doug Hurley, les deux hommes choisis par la NASA pour cette mission de démonstration, sont en quarantaine depuis 2 semaines. Malgré le confinement, le vol a été maintenu.
Nous avons été pratiquement en quarantaine depuis le 15 mars environ. Je suis probablement en quarantaine depuis plus longtemps que tout autre équipage dans l'histoire du programme spatial.
La mission de Hurley et Behnken inaugure une nouvelle ère de vol spatial qui est aussi moins chère.
Un lancement de navette a coûté environ $1 milliard. Un espace X partiellement réutilisable devrait atteindre environ 50 millions. C'est 10 fois moins cher, donc plus d'opportunités pour nous.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.